affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons nous effectuer un voyage à la fois dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, nous irons dans des contrées des plus agréables, puisque nous rendrons en Toscane et aussi sur les bords du Rhône, dans le Comtat Venaissin. Et en termes de voyage dans le temps, ce sera plus contrasté. Nous allons en effet nous rendre dans l'Europe médiévale touchant à sa fin, et nous allons le faire en compagnie d'une personnalité à la fois attachante et parfois un petit peu effrayante, une femme étonnante qui fut à la fois, qui deviendra à la fois une sainte et qui fut une diplomate et une personnalité intellectuelle et mystique extrêmement respectée mais aussi controversée en son temps. Il s'agit de Catherine de Sienne et nous allons cheminer en sa compagnie grâce l'historien André Vaucher. André Vaucher, merci d'avoir accepté notre invitation à notre micro.
Je vous en prie, merci.
André Vaucher, vous êtes historien, médiéviste, membre de l'Académie des inscriptions aux belles lettres. Vous avez également été directeur de l'École française de Rome. Et vous publiez donc, après avoir publié une biographie de saint François d'Assise et un dictionnaire encyclopédique du monde, encyclopédique du Moyen-Âge, une biographie et une réflexion, un essai sur Catherine de Sienne. Ma première question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Qu'est-ce qui a pu vous pousser à rédiger une biographie de Catherine de Sienne? Dans le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas un sujet brûlant dans l'actualité intellectuelle ou éditoriale de notre monde. Peut-être est-ce parce que vous avez été directeur de l'École française de Rome, mais ça ne suffit pas. Expliquez-nous.
Voilà, ben je vais vous expliquer. Effectivement, c'est un personnage tout à fait inactuel, à certains égards, et pourtant intéressant pour nous, je crois. Mais la première raison, c'est qu'il n'existait pas en français de biographie historique de Catherine de Sienne. Enfin, il y en a eu dans le passé. La dernière satisfaisante, disons, du point de vue historique, était de 1948, celle de Favetier et Canet, qui s'appelait « La double expérience de Catherine Bénigne-Caza », c'est son nom de famille, entre parenthèses « Sainte Catherine de Sienne ». Et ce livre avait de grands mérites, mais il était écrit par deux auteurs, dont l'un avait traité la partie, dirions-nous, événementielle, et l'autre étudiait la mystique de Catherine de Sienne. Mais les deux avaient travaillé séparément, et il n'y a pas de pont, il n'y a pas de liaison entre les deux parties du livre, qui sont chacune excellentes dans son genre, mais on ne voit pas pourquoi cette femme, qui était une grande mystique, a eu aussi un engagement politique. Voilà. Alors,
donc ça aboutissait à une forme de dualisme, en quelque sorte.
Voilà, ça aboutissait à quelque chose d'assez incompréhensible, puisqu'en général, les mystiques ne sont pas tellement engagés dans la politique, alors que c'est le cas de Catherine de Sienne. Donc, même si cette biographie ancienne de 1948 était intéressante et reste valable à bien des égards, il fallait aller plus loin parce qu'il restait un mystère Catherine de Sienne. Je ne prétends pas l'avoir complètement éclairé, mais je pense que il fallait l'étudier sous son double aspect, justement. C'est ça qui est intéressant, de mystique et de femme engagée dans les combats de son temps.
Alors, vous l'avez dit, Catherine de Sienne, bien sûr, n'a pas toujours été Sainte Catherine de Sienne. Elle a d'abord été une petite fille, née sous le nom de Katharina Jacobi Bénigne-Caza. Pouvez-vous tout d'abord nous dire dans quel monde cet enfant vient au monde?
Alors, elle est de Sienne, comme son nom l'indique, comme François est d'Assise, c'est-à-dire de cette civilisation urbaine italienne du Moyen-Âge, extrêmement brillante, surtout au XIIIe, XIVe siècle. Brillante, mais en même temps, dans le cas de Catherine de Sienne, qui est frappée par des cataclysmes terribles, en particulier la peste de 1348, la fameuse peste noire. Elle naît en 1347 et elle a eu la chance de survivre, mais sa mère, qui avait eu 23 enfants, je répète bien le chiffre, je ne me suis pas trompé, en a perdu un bon tiers en l'espace de 2 ou 3 ans, autour de 1348-1350. Alors il faut bien voir que ce n'était pas une épidémie banale, c'était une catastrophe qui a englouti un tiers de la population de l'Occident. Donc la ville de Sienne, qui comptait à peu près 30 ou 40 000 habitants, au moment de la naissance de Catherine, s'est trouvée ramenée à 20 000 en l'espace de 4 ou 5 ans. Alors si on essaye d'imaginer ça à l'échelle de notre... situation actuelle, on peut voir ce que ça représente. Hein. Se faire une petite idée. Alors, nous sommes dans une situation brillante. Sienne est une ville riche, avec une industrie textile, avec des banquiers surtout. Et son père, donc le père de Catherine, est un de ces artisans drapiers. Donc, elle n'est pas du tout issue d'une famille aristocratique. C'est pas non plus la fille d'un ouvrier.
On pourrait dire que c'est la classe moyenne de l'époque.
On pourrait dire, voilà, un petit entrepreneur, on dirait aujourd'hui, mais qui vivote et qui va d'ailleurs faire. Enfin, peu après, un des frères de Catherine qui reprendra la boutique paternelle va faire faillite parce que la situation économique est catastrophique après les épidémies de peste que j'évoquais à l'instant. Voilà. Donc c'est un milieu, pour en terminer avec la situation sociale, c'est un milieu donc d'artisans, mais quand même, ce sont des gens qui avaient une certaine culture, pas une culture savante, bien sûr, elle ne savait pas le latin, elle n'a jamais su le parler ou l'écrire, elle a appris à le lire, mais qui n'étaient quand même pas non plus des prolétaires. Voilà.
Oui, vous nous apprenez même que certains de ses frères sont associés de façon transitoire au gouvernement de la ville.
Absolument, ce qui n'est pas rien. Ils auront des responsabilités au gouvernement de Sienne, et d'ailleurs, ils seront pris dans les remous de la vie politique siennoise, qui à cette époque est très agitée, parce que justement... les classes subalternes, les ouvriers qui sont nombreux, se révoltent à plusieurs reprises et renversent le gouvernement, massacrent, parce que c'était un peu l'habitude à cette époque, quand on changeait de gouvernement, on massacrait ou on essayait d'éliminer physiquement les détenteurs du pouvoir. Et donc, là aussi, un contexte politique extrêmement agité dans ces années-là.
Alors justement, dans ce contexte politique, vous avez dit, voilà, il y a des luttes entre classes sociales pour la prise de pouvoir au sein des pouvoirs, au sein des gouvernements communaux, mais il y a aussi d'autres conflits d'ampleur géographique et idéologique plus vaste, notamment celui entre les Guelfes et les Gibelins, mm-hmm. Qui aura une grande importance, je pense, dans la vie de Catherine de Sienne. Pouvez-vous nous expliquer cela, toujours pour poser le décor?
Oui, alors effectivement, les conflits sont nombreux. Alors en Italie, il y a des conflits sans fin entre les cités qui rivalisent. En particulier, Florence, la voisine de Sienne, est extrêmement prospère à ce moment-là, en pleine croissance. Et donc, il y a une rivalité entre Sienne et Florence. Et puis, il y a une rivalité aussi... il y a des conflits au sein des États pontificaux, c'est-à-dire que le pape contrôle, mais de loin, depuis Avignon, un État qui est assez grand, mais qui est l'objet de convoitises de la part de tous ses voisins. Et dans les années, justement... 1370, les villes de l'État pontifical, Pérouse par exemple, d'autres encore, vont se révolter contre l'autorité du pape et avec le soutien de Florence. Donc on va avoir une sorte de guerre entre Florence et la papauté dans laquelle Catherine de Sienne va être amenée à intervenir.
Vous avez dit que le pape était en Avignon, ce qui fait qu'on, en quelque sorte, on fait un travelling arrière historique pour avoir maintenant englobé les grandes fractures qui divisent l'Europe à cette époque. Et que se passe-t-il? Pourquoi se retrouve-t-il en Avignon? Qu'est-ce qui a bien pu l'y mener?
Alors, le pape se retrouve à Avignon depuis les années 1310, enfin, de façon stable, disons. Il y avait eu un grand conflit au début du XIVe siècle entre Philippe le Bel, roi de France, et le pape Boniface VIII, qui avait voulu lui imposer sa suprématie, et le roi de France avait refusé. Et non seulement il avait refusé, mais il avait fait attaquer le pape par un commando, comme on dirait aujourd'hui, ce qu'on appelle l'attentat d'Anani, Et le pape en question en était mort, et Philippe le Bel donc a exigé ensuite que la papauté vienne s'installer tout près de la France. Avignon n'était pas en France, d'ailleurs Avignon restera possession de la papauté jusqu'à la Révolution française. Et si vous voulez, pour schématiser un peu, la France a mis en tutelle la papauté qui avait eu l'audace excessive de vouloir la mettre sous contrôle. Voilà. Donc il y a un seul pape, c'est le pape de Rome bien sûr, mais il vit à Avignon, et cette situation est très mal vécue par les Italiens, puisque les Italiens considèrent que le pape en tant qu'évêque de Rome devrait résider à Rome, ce qui effectivement paraît logique. Et ce sera un des grands thèmes de l'action de Catherine de Sienne, d'essayer de faire revenir ce pape d'Avignon à Rome. Voilà. Et là, il faut bien dire qu'on a souvent surestimé son rôle dans l'historiographie classique, traditionnelle. Effectivement, elle est allée voir le pape à Avignon, elle l'a supplié de rentrer, mais de toute façon, nous savons par ailleurs qu'il avait déjà décidé de rentrer. Elle n'a fait que l'encourager à prendre la décision pour de bon. Pourquoi est-ce qu'il avait décidé de rentrer ? Ben parce qu'il était bien conscient que s'il restait éternellement à Avignon, il allait perdre l'état pontificaux et Rome, à la limite. Donc les enjeux étaient quand même lourds. Donc Catherine n'est pas responsable de ce retour, mais elle l'a probablement favorisé, accéléré peut-être.
Voilà. Nous y reviendrons toujours pour poser le décor. J'ai appris au fil de lecture de votre ouvrage qu'une des raisons avancées en tout cas par les papes de cette époque de résider en Avignon, c'était aussi d'essayer de régler un conflit qui opposait à ce moment la France et l'Angleterre,
voilà,
et qui n'était pas des moindres.
Ce qui faisait hésiter le pape à rentrer en Italie, c'était qu'il espérait toujours jouer un rôle d'arbitre dans ce qu'on appelle la guerre de Cent Ans, qui avait commencé dans les années 1340 et qui va se prolonger pendant effectivement un bon siècle. Mais au bout d'un certain temps, il s'est rendu compte que rester là dans l'attente d'être appelé comme arbitre était quand même un pari un peu dangereux, qu'il valait mieux sauver Rome et les états pontificaux. Et à ce moment-là, il décide, en 1376, peu après la visite de Catherine, de rentrer en Italie. Mais, encore une fois, c'est plutôt un accélérateur. Catherine a joué le rôle d'un accélérateur dans une décision qu'il avait déjà prise in petto, comme on dit, dans son cœur.
Alors revenons à... maintenant que le décor est largement planté, ouais. On voit les conflits, les débats qui traversent la société. Il faut peut-être aussi d'ailleurs évoquer la situation de l'Église, la volonté de réforme, la naissance des ordres mondiaux. Tout cela va certainement l'influer aussi. Lorsqu'elle naît à Sienne, cet enfant, quels sont les débats qui agitent les débats plus spirituels ou je sais pas, d'organisation qui agitent l'Église à ce moment-là? Quelle est la figure de l'Église que découvre Catherine ?
Bien, Catherine a été très liée dès son enfance à l'ordre dominicain, ne serait-ce que parce qu'il y avait juste au-dessus de sa maison, la topographie siennoise, c'est assez mouvementé, il y a des collines très abruptes. Elle habitait dans un fond de vallée, juste au-dessus, il y avait un couvent dominicain qui existe encore, Saint-Dominique, et elle était elle a été d'emblée liée à ce couvent, ne serait-ce que parce qu'elle avait un cousin qui était lui-même dominicain dans ce couvent et qui a joué un grand rôle dans son enfance et son adolescence pour elle. Voilà, ça c'est le contexte local, le contexte général, après 1348, donc... Quand Catherine arrive, disons, à l'âge adulte, vers 1360, dans les années 1360, l'Église traverse une crise. Elle a été très frappée, très durement frappée par la peste. Le clergé n'a pas échappé au sort commun. Les ordres religieux sont désorganisés, souvent en crise. Les effectifs se sont beaucoup réduits. Et puis, il y a une atmosphère de corruption, de laisser-aller... qui est déploré par beaucoup de bons esprits, pas seulement par Catherine. On a vraiment l'impression que l'Église, à ce moment-là, traverse de grosses difficultés partout, d'ailleurs, pas seulement en Italie ou à Sienne, mais tout le monde ressent le besoin d'une réforme. Alors, réforme, c'est vite dit, mais Il faut d'abord convaincre les institutions de se réformer, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, qu'est-ce qu'on met sous ce nom de réforme ? Voilà. Donc, elle arrive à l'âge adulte, mais vous savez, au Moyen-Âge, on était adulte. Les filles se mariaient à 13 ou 14 ans, au plus tard, parfois même à 12. Et donc, elle arrive à l'âge adulte pour l'époque, à un moment où on commençait à s'interroger sur la capacité de l'Église de se réformer. Et donc, elle va s'engager dans un double combat. Donc, premier combat, faire revenir le pape en Italie. Et parce qu'elle considère que si le pape n'est pas là où il doit être, c'est-à-dire à Rome, il est en tant qu'évêque de Rome, successeur de Pierre, etc., il ne peut pas vraiment avoir une action efficace. Et d'autre part, que cette autorité du pape, elle s'exerce pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan moral, et qu'elle promeuve un ensemble de réformes pour sortir l'Église de sa situation assez sombre.
Pour qu'une jeune adulte, très jeune adulte, puisqu'on l'avait dit, adulte très tôt, cette période, et ce type d'objectif et ce type de pensée, il faut bien qu'elle ait une personnalité un petit peu hors norme. Je veux bien croire qu'on était mature, plus jeune, et qu'il n'y avait pas encore cette notion d'adolescent où l'adolescence se poursuit jusqu'à 30 ans, voire plus. Enfin, quand même, moins de 20 ans, avoir ce type de pensée ou ce type de préoccupation, c'est pour le moins surprenant. Quelle était sa personnalité ?
Oui.
Comment peut-on la caractériser ? Est-ce que vous
avez raison.
Nous la présenter, voilà, de l'enfance à l'adolescence.
Vous avez raison, mais il ne faut pas l'oublier non plus que l'espérance de vie au Moyen-Âge était brève, surtout au XIVe siècle, avec la peste. Dans la deuxième moitié du XIVe, évidemment, c'est une moyenne, donc les moyennes ne sont jamais signifiantes totalement. Mais enfin, la moyenne d'âge, disons, de la population était 33 ans. Hein. 33 ans, alors il y avait évidemment des gens qui vivaient jusqu'à 70 ou 80, mais il y avait une mortalité infantile et juvénile absolument énorme. Donc,
oui, puis pour utiliser les choses, c'est vrai que
la vie était brève, et donc les gens étaient peut-être mûrs plus tôt, en tout cas.
Oui, puis ça dura longtemps, hein. Sous l'Empire, on pouvait être général à quel âge ?
Oui,
très tôt.
Voilà. Bon, donc, alors ça c'est évidemment un problème, comment est-ce qu'une fille aussi jeune, et dans un milieu qui n'avait rien de cultivé ni d'intellectuel, a pu être sensibilisée
ni de très portée sur la religion,
à ses problèmes. Alors, d'abord, elle était extrêmement pieuse, dévote. Elle a eu sa première vision du Christ à 6 ans. Faut quand même pas, enfin, 6 ou 8, on ne sait pas trop. Ça dépend des récits. Mettons que ce soit 8 ans, c'est quand même tôt, 8 ans. Voilà. Et le Christ lui aurait révélé, dès ce moment-là, de cette première apparition, qu'il attendait beaucoup d'elle, enfin, qu'il allait lui demander des choses importantes. Bon, et alors après, ça se précise dans les années qui suivent. C'est à ce moment-là qu'elle refuse. À 12 ans, ses parents commencent à bien l'habiller, à bien la soigner pour qu'elle trouve un bon mari. Et à ce moment-là, elle refuse absolument de se marier.
Et alors ça, je veux dire, excusez-moi, je vous coupe, mais alors, c'est juste pour le plaisir de rappeler, si vous pouvez le faire, cette crise, comment l'appelle-t-on à cette époque, cette crise de coquetterie, ça s'appelle une crise de... C'est un terme qui est absolument charmant.
D'abord, je vois pas le mot exact.
Je vais la retrouver, on appelle ça donc une crise.
Enfin, en gros, c'est ça, c'est la coquetterie, c'est quand les filles commencent à bien s'habiller, à bien se peigner pour...
toutes choses qui perdurent aujourd'hui.
Pour séduire. Mais c'est les parents qui...
Une crise de vanité.
De vanité, oui, on disait vanité à l'époque, c'est ça, voilà. Mais donc, sa mère, qui n'a qu'une idée, c'est de la marier, fait tout pour l'engager dans cette voie. Et en plus, le problème se pose de façon très concrète, puisqu'une de ses sœurs, qu'elle aimait beaucoup, meurt en couche. Et la grande idée de sa mère, c'est qu'elle épouse le veuf, qu'elle épouse l'ancien mari de sa sœur. Et ça, elle ne veut pas entendre parler. En plus, c'était un coureur de jupons. Absolument
invétéré,
et que déjà sa sœur avait été très malheureuse, et donc elle n'a pas envie de recommencer. Et à ce moment-là, elle se bloque en disant non, je ne me marierai pas. Elle se coupe les cheveux elle-même de façon à devenir le plus laide possible, et elle se mûre dans le mutisme. Enfin, elle fait une crise comme des adolescents peuvent en faire, de refus total de la famille, du mariage, de la société. Sa famille le supporte très mal, l'enferme dans une espèce de cagibi, mais elle persiste. Et à ce moment-là, alors, elle commence, pendant plusieurs années, elle va vivre complètement solitaire dans sa maison, parce qu'il n'est pas question pour une fille d'aller vivre dehors, surtout à l'époque. Et en même temps, en priant, en lisant, parce que son cousin dominicain lui a appris à lire, Et donc, elle mène une vie pendant 7 ou 8 ans complètement renfermée. Et c'est là probablement qu'elle a développé sa mystique, c'est-à-dire qu'elle a des rencontres avec le Christ, elle a des visions du Christ qui vient lui parler, qui lui délivre des messages, et donc elle se sent élue, elle se sent choisie pour faire tout autre chose que se marier ou avoir des enfants. Voilà.
Oui, il utilise une formule qui est jolie elle aussi, que vous nous rapportez, à travers les siècles, que donc son mutisme devient pour elle la cellule de la connaissance de soi.
C'est ça, oui. Alors c'est la formule qu'elle emploie elle-même. Bon, elle ne l'a peut-être pas inventée, c'est peut-être son confesseur, son directeur spirituel. C'est bien, c'est-à-dire, elle ne vit pas dans un monastère, elle ne sera jamais moniale, elle n'accepte pas la clôture, mais elle fait une espèce de clôture intérieure, c'est-à-dire elle se coupe. Elle coupe sa sensibilité, son imagination de tout ce qui est mondain, charnel, etc. De façon à développer une relation purement spirituelle avec le Christ et avec le monde.
Donc, du reste, après avoir refusé ce mariage social et charnel avec son ex-beau-frère...
Oui, ou tout autre.
Voilà, et tout autre dans la foulée... elle se progressivement, si je comprends bien, se destine à devenir l'épouse du Christ.
Voilà, en fait c'est ça, de plus en plus elle prend conscience, alors là on peut évidemment dire, elle s'imagine, elle se monte la tête, mais enfin, si on veut la comprendre, il faut entrer dans cette logique qu'elle est élue pour être, été choisie par le Christ pour être son épouse. Alors le terme épouse du Christ, il ne faut pas fantasmer là-dessus, c'est un terme, je dirais pas banal, mais enfin, beaucoup de femmes qui se lançaient dans la vie religieuse, ont utilisé cette métaphore à l'époque.
Oui, de la même façon que nous sommes les enfants du Christ, voilà, et tout ça dans le corps de l'Église.
Les enfants de Dieu, bon, voilà. Certes. Mais chez elle, c'est vraiment quelque chose de déterminant, de fort, parce qu'elle a en particulier la vision d'un mariage mystique. C'est-à-dire qu'elle pense que le Christ vraiment s'est marié à elle, l'a choisi comme épouse, et elle en rêve, et elle se retrouve avec un anneau au doigt, et qu'elle considère comme étant un anneau que lui aurait remis la Vierge Marie de la part du Christ. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est pas simplement une métaphore, comme je disais à l'instant. Pour elle, c'est un lien existentiel avec le Christ qui va la guider jusqu'à la fin. Et c'est alors ce Christ, c'est en même temps un Christ souffrant, un Christ des douleurs, surtout à cette époque-là. On met beaucoup l'accent dans la piété, la dévotion sur l'humanité du Christ et sur les souffrances endurées par le Christ dans la Passion. Et alors, elle va... expérimenter cette douleur à travers la stigmatisation, puisqu'en 1375, lorsqu'elle se trouvait à Pise, dans une église, tout à coup elle sent des douleurs terribles aux endroits où le Christ avait été crucifié, enfin les plaies, les mains, les pieds et le côté. Alors ce ne sont pas des stigmates visibles, elle dit qu'elle a demandé au Christ la grâce que ça ne soit pas visible pour ne pas être... embêtée, disons, par les curieux, mais elle a prétendu, elle a toujours affirmé qu'elle avait reçu cette grâce de partager aussi les souffrances du Christ physiquement dans son corps. Voilà.
Ce qui exaspère les franciscains.
Absolument, qui considèrent que François d'Assise est le seul stigmatisé de l'histoire.
Pas seulement le premier, le seul.
Et qu'il n'y en a pas d'autre. Donc ça va dégénérer, après la mort de Catherine, une grande querelle qui va durer plus d'un siècle entre les dominicains et les franciscains sur ce point.
Ce qui est étonnant, c'est que cette jeune femme commence son entrée en religion par le mutisme, une forme d'hérémétisme en quelque sorte, même si elle reste au sein de sa famille, physiquement je veux dire,
ouais.
Et en ville, mais on la verrait bien quand même suivre une vraie carrière quand même d'ermite, comme il y avait tant d'ailleurs à cette époque, se retirer... Elle a des attitudes parfois un petit peu, comment dirais-je, proches de la folle en Christ, de refus de la société, de ses règles. Elle est même franchement souvent dans la subversion, en tout cas la transgression. Ouais. Elle refuse les rôles assignés. Et pourtant, elle reste dans le monde. Ce monde que souvent elle décrit comme aujourd'hui, enfin en son temps, vouée en pleine chute, elle s'y insère. Ouais. Elle ne s'en retire pas pour s'en protéger. Au contraire, elle plonge dans le bain. Comment expliquer cette attitude ?
Alors, c'est un problème très complexe et je ne prétends pas avoir trouvé la solution d'ailleurs. Mais il y a des voies qui étaient déjà exclues. Par exemple, pour l'érémitisme, pour une femme, il y a eu quelques cas d'érémitisme féminin, mais enfin, c'était vraiment très déconseillé, vivement déconseillé par l'Église, pour tous les dangers que ça présentait, non seulement pour la femme, mais aussi pour les gens qu'elle aurait pu séduire éventuellement. Donc, il y a une prohibition, un interdit sur l'érémitisme féminin. Les recluses, ça existait, c'est-à-dire des femmes qui étaient enfermées dans des petites maisons, le long des murailles. À Sienne, on en comptait au moins une cinquantaine à l'époque de Catherine. Donc ça a pu la frapper. Et pourtant, ce n'est pas la voie qu'elle a choisie. Parce que ces femmes, bon, de temps en temps, les gens des environs leur apportaient à manger et puis demandaient des conseils de tout ordre, d'ailleurs. Elles pouvaient exercer une certaine influence, mais enfin, ça demeurait limité. Et là aussi, l'Église commençait à trouver... L'Église et les autorités communales commençait à trouver que ces recluses étaient un peu marginales, enfin, commençaient à devoir être surveillées, et on assiste à une restriction de la réclusion à partir justement de la deuxième moitié du XIVe siècle. C'est mal vu. Alors, elle aurait pu, dans l'abstrait, devenir moniale, entrer chez les dominicaines. Il y avait un couvent de dominicaines à Sienne. Elle n'y va pas. Alors, problème, est-ce qu'elle n'y va pas pour des raisons économiques, parce qu'il fallait une dot pour entrer dans ces monastères, et que sa famille, d'abord, n'était pas aisée, et en plus, avait fait faillite. Donc, il y a peut-être des raisons économiques. Je pense plutôt, mais je ne peux pas l'affirmer absolument, que c'est un choix qu'ayant eu conscience d'avoir une mission à remplir, elle s'est dit que cette mission ne pourrait pas la remplir si elle entrait dans un couvent où elle serait astreinte à la clôture et ne pourrait avoir, elle aurait pu à la rigueur avoir un rayonnement spirituel sur sa communauté, mais pas au-delà. Et comme elle est persuadée que le Christ l'a envoyée pour l'Église, pour sauver l'Église, ou en tout cas l'aider à se réformer, eh bien, il n'y a pas 36 solutions, il faut rester dans le monde si on veut faire bouger les choses. Cela dit, elle garde quand même très très fort un attachement ou un désir de vivre en communauté. À peine elle est reconnue et approuvée par le pape, elle lui arrache l'autorisation de construire un couvent près de Sienne. Elle va s'investir à fond là-dedans. Donc visiblement, elle était quand même nostalgique de la vie monastique. Mais en même temps, je crois qu'elle ne l'aurait pas supportée parce qu'elle avait une personnalité trop forte. Et puis, elle était trop consciente des exigences de sa mission qui était quand même exigée, une mobilité. Voilà. Donc le problème est complexe. C'est pas qu'elle méprisait la vie contemplative ou la vie communautaire, mais elle n'a pas considéré que ça correspondait à ce que on attendait d'elle, ce qu'elle pouvait donner.
Lorsqu'elle se jette dans un corps perdu, c'est le moins qu'on puisse dire dans le monde, elle a aussi avant d'aborder son action diplomatique en quelque sorte, ou politique, elle démultiplie aussi les actions charitables. C'est-à-dire qu'on
voit d'ailleurs, elle commence par là, elle entre dans un groupe de pénitentes, qu'on appelait les mantellates, c'est des femmes qui portaient un manteau noir, qui gravitaient autour du couvent dominicain de Sienne, enfin, il n'y en avait pas qu'à Sienne, il y en avait aussi ailleurs. Et c'était pas vraiment un tiers ordre, parce qu'il n'y avait pas de tiers ordre dominicain, mais c'était des femmes laïques, en général des veuves d'ailleurs, qui menaient une vie moralement tout à fait correcte, et qui s'adonnaient à des œuvres de dévotion, écoutaient des prédications, mais aussi s'occupaient des pauvres, des malades, etc. Voilà.
Donc là, elles ont un statut, c'est un peu comme des laïcs consacrés aujourd'hui.
Voilà, c'est des laïcs consacrés, exactement. Ouais. Donc elle entre dans ce groupe, mais elle était atypique par rapport au groupe. La plupart étaient des veuves et elle avait 17 ans donc, ou 18 ans. Et donc vraiment, il fallait bien qu'elle se raccroche à une institution, mais ce n'était pas forcément pour elle la plus indiquée. Mais dans le cas de cette confrérie de femmes pieuses, elle se distingue par son zèle justement charitable et envers les malades, et Dieu sait s'il y en avait à l'époque. Et elle fait des miracles, enfin, on commence à lui attribuer des miracles, d'avoir guéri des gens par simple toucher, ou d'avoir fait des choses extraordinaires Donc, au niveau de Sienne, elle commence à être connue comme une sainte femme. On commence à parler d'elle comme une sainte femme. Voilà. Mais ça reste très local. Elle se constitue un réseau de femmes d'abord, puis ensuite d'hommes, c'est ça le plus extraordinaire, qui ont été fascinés par elle. Elle devait être absolument fascinante, parce que ces hommes étaient des gens qui appartenaient à des familles élevées de la société siennoise, des aristocrates, des notaires, etc. Enfin, elle se constitue un groupe qu'elle appelle sa familia, oui. Sa famille, mais c'est une famille spirituelle, c'est des gens qui n'ont aucun lien de parenté avec elle, sauf sa belle-sœur qu'il avait rejointe après son veuvage, et sa mère, qu'elle agrège à cette petite communauté, mais avec laquelle elle a toujours de mauvais rapports. Elle lui reproche d'avoir été une mère trop charnelle et pas assez spirituelle. Donc, on a quelques échanges de lettres assez vivaces à ce point de vue-là. Donc, voilà, le point de départ, c'est ça. C'est une réputation de sainte femme à Sienne. Et, d'autre part... sa notoriété s'étend à l'ensemble de la Toscane par l'intermédiaire des Dominicains, puisque les Dominicains se rencontrent périodiquement et considèrent, ils la font venir en 1374 à Florence, ils la soumettent à un examen comme Jeanne d'Arc plus tard, pour voir si elle est vraiment orthodoxe, si c'est pas une sorcière ou une fille qui se monte la tête. Il conclut que non, elle est tout à fait normale, et à ce moment-là, elle va devenir... l'auxiliaire de la papauté. Elle va se mettre en rapport avec le pape, elle lui avait déjà écrit à plusieurs reprises, mais à ce moment-là, elle est reconnue comme orthodoxe, mais aussi comme pouvant servir l'Église à sa façon.
De fait, elle devait avoir une force de conviction, d'entraînement, comme on dirait aujourd'hui, voilà, absolument étonnante. Vous citez le cas de deux ou trois cas, je ne sais plus, absolument sidérants, où des personnalités de l'époque, et pas des moindres, je crois que c'est un évêque ou un cardinal, qui ne se prive pas d'en dire du mal, en parle comme une espèce d'illuminé dont il faudrait se défier, et qui, ensuite, étant emmené à la rencontrer, est retourné en l'espace d'une entrevue.
Absolument.
Et le fait se répète. En tout cas, c'est comme ça que c'est raconté.
C'est ce qu'on raconte dans sa vie à plusieurs reprises. Elle va voir les gens qui disent du mal d'elle, avec son énergie et son audace habituelle, et puis de tous ces entretiens, les interlocuteurs, même les plus mal disposés au départ, ressortent tout à fait séduits et fascinés. Bon, en plus, elle devait être fascinante, même du point de vue physique, puisque nous savons qu'un clerc de son entourage est tombé amoureux d'elle et a fini par se suicider de désespoir. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi à voir de ce côté-là. Voilà, donc en tout cas, c'est une personnalité qui a une énergie, et ça c'est sa caractéristique principale peut-être, une énergie inlassable, alors qu'elle se nourrit de rien, et une volonté. Elle emploie tout le temps dans ses correspondances le mot « je veux »,« io voglio » en italien, « je veux que vous fassiez ci, je veux que vous fassiez ça, je veux que vous changiez de vie ». Voilà, donc c'est quelqu'un qui s'engage à fond et avec une autorité que rien ne justifiait, puisqu'elle n'avait aucune fonction dans l'Église, aucun ministère, mais elle dit qu'elle tient sa mission. Comme le dira Jeanne d'Arc, qu'elle tient sa mission de Dieu, et donc elle parle au nom de Dieu, ce qui est quand même une prétention assez forte.
Du coup, elle ne doute de rien.
Voilà.
En aucune circonstance.
Parce qu'elle est convaincue que Dieu est avec elle, que Dieu la soutient, et qu'elle a une mission à accomplir, qui est justement d'aider l'Église à se réformer, ou d'obliger l'Église et les hommes de son temps à se réformer.
Enfin, je veux dire que c'est l'aspect le plus sympathique, c'est la façon dont elle peut s'adresser aux puissants sans jamais les ménager. Alors, aucune sorte. On a même peine à imaginer cela aujourd'hui.
Absolument, elle multiplie au début de ses lettres, par exemple, les manifestations de respect, et puis après, elle cogne à grands coups sur ses interlocuteurs, en les traitant parfois de tous les noms, d'oiseaux, ce qui fait qu'elle était assez redoutée. Mais c'était justement sa entrée, si vous voulez, c'est une figure dont nous n'avons plus idée aujourd'hui dans nos civilisations, c'est la figure du prophète. Elle a été considérée comme une prophétesse, et donc le prophète dans la Bible, c'est quelqu'un qui est d'abord, comme on dirait aujourd'hui, franc du collier, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à aller voir le roi pour lui dire « tu as fait des choses abominables ». Voilà, comme le prophète Nathan qui va trouver David en disant « tu n'avais pas à faire tuer le mari de la femme avec laquelle tu avais envie de coucher ». C'est dégoûtant ce que tu fais, je suis chargé par Dieu de te le dire, voilà. Bon ben, elle est tout à fait dans ce style-là, dans la lignée du prophétisme biblique, qui n'hésite pas à dire aux gens leur cas de vérité, non pas pour les accabler, mais au contraire pour les faire changer, pour les amener à se convertir.
Oui, d'ailleurs, vous évoquez une autre figure contemporaine, mais qui l'a un peu précédée, c'est, si je ne me trompe pas, c'est Brigitte de Suède.
Absolument.
Qui est un peu dans le même registre.
Sur le même registre, elle était morte juste avant, en 1373, au moment où Catherine commence sa vie publique, si je peux dire. Et on peut se demander d'ailleurs si la papauté, qui était liée à Brigitte, n'a pas voulu la remplacer par une autre femme, Catherine, capable de continuer le même combat.
Si vous voulez bien, je vous propose de lire un extrait d'une
bien sûr,
lettre
oui,
pour sentir le ton.
Il y a de très beaux textes.
Oui, du reste, elle écrit très bien.
Elle écrit très bien
et certains commentateurs de l'époque le soulignent d'ailleurs, y compris ses adversaires, un peu en déplorant.
Voilà. Absolument.
Donc voici la façon dont Catherine de Sienne s'adresse à Charles V pour lui demander de cesser ses querelles, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Édouard III, de façon à se joindre ensuite à la croisade projetée par Grégoire XI. « Vos querelles n'ont cessé de faire obstacle au mystère du Saint-Passage, c'est-à-dire la croisade, ce mal à lui seul de nous faire redouter le jugement de Dieu. Je vous en prie, cessez de causer tant de mal et d'empêcher tout le bien qui résulterait de la reconquête de la Terre Sainte et du rachat de ces pauvres âmes qui ne partent pas du sang du Fils de Dieu. » Vous devriez rougir, vous et les autres princes chrétiens, combattre son frère et laisser en paix l'ennemi, chercher à s'emparer du bien d'autrui et ne pas recouvrer le sien. Quelle honte devant les hommes et quelle abomination pour Dieu. Mettez fin à tant d'inepties et d'avanglements. Je vous le dis de la part du Christ crucifié, ne tardez plus à faire la paix, faites la paix et tournez vos armes contre les infidèles. Elle s'adresse quand même au roi de France.
Voilà, elle prend pas met pas son drapeau dans sa poche, comme on dirait aujourd'hui. Et ça permet d'ailleurs de comprendre qu'en France, elle était très mal reçue et perçue, et que, alors que dans la plupart des pays d'Europe, son culte va se développer très vite, et ses lettres seront traduites en langue vulgaire, etc. En France, il faudra attendre le XVIIe siècle pour qu'on la traduise en français et qu'on commence à la lire, parce qu'elle avait été très dure pour les rois de France de l'époque, qu'elle voulait absolument ramener à l'obéissance. Puis ça sera pire encore après, parce qu'en 1378, il va y avoir un schisme dans l'Église, il y aura deux papes, un pape à Rome et un pape à Avignon. Évidemment, le roi de France soutient le pape d'Avignon, et le pape d'Avignon, pour Catherine, c'est l'abomination, c'est l'antéchrist. Et donc, il écrit encore une autre lettre à Charles V en lui disant « Là, vous êtes vraiment un personnage diabolique si vous soutenez ce faux pape, cet antipape. »
Oui,
donc elle n'a pas ménagé.
Elle
n'a pas ménagé la France.
Du reste, il semble qu'elle ne ménageait personne. En fait.
Personne, mais enfin.
Et qu'elle se rendait même insupportable à ses soutiens, non ?
On comprend que les Français n'avaient pas été les plus enthousiastes à son égard.
Du reste, c'était une personnalité quand même un peu exaltée. Tant et si bien qu'il semble que même les gens qu'elle soutenait finissaient par être quelque peu interloqué, lassé de ses admonestations.
Tout à fait, parce que même les papes, que pourtant elle soutenait du fond du cœur et qu'elle aimait beaucoup, à force d'être traités en moins que rien, finissaient par s'énerver. Grégoire XI en particulier, qu'il avait reçu à Avignon, une fois qu'il est rentré en Italie, il ne veut plus la recevoir parce qu'il trouve qu'elle est allée trop loin. Enfin bref, même c'est... Et après, le grand schisme, c'est encore pire, puisqu'il y a un pape à Rome qui s'appelle Urbain VI, dont l'avènement le réjouit beaucoup, parce que c'est un Italien, elle dit enfin on va avoir un pape italien, ça va changer, c'est pas comme ces papes français d'Avignon qui ne faisaient rien pour la réforme de l'Église. Puis au bout d'un an, elle se rend compte que son pape est aussi mauvais, s'il n'est pire que les précédents. Et donc à ce moment-là, elle fait une crise de désespoir et elle commence à lui envoyer des lettres virulentes.
Et ça précède de peu, ça.
Voilà, en disant que... Il ne s'occupe pas du tout de la réforme, il s'occupe uniquement de faire gagner son camp par rapport à l'autre, et qu'elle va en appeler au Christ directement. À ce moment-là, elle s'est dit, bon, puisqu'il n'y a rien à espérer de vous, je vais passer par-dessus votre tête et j'en appelle au Christ, qui est quand même très fort. Quand on écrit à un pape...
Contre le peuple, oui, c'est un peu présomptueux. Si vous voulez bien, je vais lire une autre missive, que celle-ci, si je ne me trompe pas, a été envoyée donc à Gérard Dupuis, abbé de Marmoutier, ça c'est une chose,
ah oui.
Mais qui est aussi le nonce du pape en Toscane. Et donc, celui-ci a eu peut-être l'imprudence, si je ne me trompe pas, de lui demander ce qu'il faudrait faire pour réformer l'Église. Et voici sa réponse. Je crois, je, direct, d'emblée, hein, je crois et je pense devant Dieu qu'il serait bon de réformer deux choses qui corrompent l'Église de Dieu. La première est la trop grande affection et sollicitude des prélats pour leurs parents. Il faut une fois pour toutes que ces abus cessent. La seconde est la trop grande douceur fondée sur trop de miséricorde. Hélas, c'est à force de ne pas avoir corrigé ses membres qu'ils se sont corrompus. Or, il est trois vices détestables que le Christ aborde plus que tout, l'impureté, l'avarice et la superbe qui règnent dans l'épouse du Christ, c'est-à-dire chez les prélats qui ne recherchent que les délices, les honneurs et les richesses. Ils voient les démons de l'enfer emporter les âmes et n'en ont cure car ils sont eux-mêmes devenus des loups et vendent la grâce divine. Il me semble que pour pouvoir reconstruire l'Église, conclut-elle, de fond en comble, il nous faudrait la détruire jusqu'à ses fondements. Oui, je veux que vous vous employiez à tout détruire, il n'y a pas d'autre façon.
Oui, là c'est vraiment le radicalisme absolu, c'est, l'Église est tellement corrompue qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de faire table rase et de repartir à zéro, qu'on peut dire.
Mais non, mais Luther et Calvin sont des enfants de cœur.
Voilà, à côté, exactement. Là, mais, elle annonce, puis entre elle et Luther, il y a un personnage qui lui ressemble beaucoup, qui est Savonarole, à Florence, qui a en 1493, la dernière décennie du XVe siècle, va lui lancer la révolte ouverte contre le pape. Ça finira mal pour lui puisqu'il sera finalement brûlé, mais il a repris des thèmes de Catherine avec autant de radicalisme, disant qu'il fallait remettre le système complètement à plat, disons, et pour véritablement repartir du bon pied, quoi.
C'est pas ce que pensaient aussi les ordres mendiants.
Alors les ordres mendiants étaient divisés, c'est-à-dire qu'il y avait chez les franciscains toute une aile effectivement qui était réformatrice et assez hostile à la papauté, cette papauté-là en tout cas. Et alors c'était moins net chez les dominicains qui étaient plus liés à la papauté à l'époque en tout cas. Mais il va y avoir, et c'est là que Catherine va jouer un rôle important, il va y avoir un mouvement qui se développe précisément dans ces années 1370 et suivantes, qu'on appelle l'observance, c'est-à-dire qui veut ramener l'ordre dominicain à une plus stricte observation de la règle, et en particulier en matière de pauvreté, mais aussi sur d'autres points. Et alors Catherine va être très liée avec son directeur de conscience, et qui sera ensuite son biographe, Raymond de Capou, qui est un dominicain très lié à la papauté romaine, et qui va devenir le porte-parole, puis après le chef de l'observance en Italie, et qui va essayer de réformer l'ordre dominicain dans ce sens-là, en s'appuyant sur l'exemple et sur le message de Catherine de Sienne. Donc, à titre posthume, je dirais, elle a eu plus d'influence que de son vivant, parce qu'elle est à l'origine de ce mouvement de l'observance qui va s'imposer non seulement dans les couvents féminins, mais aussi dans les couvents masculins, dans la première moitié du XVe siècle. Voilà.
Comment ça se déroule d'ailleurs son procès en
canonisation. Bien, son procès, sa canonisation, elle est relativement tardive, puisqu'elle est morte en 1380, elle a été canonisée en 1461. Mais ça aurait pu être pire. Il y a parfois des saints qui sont canonisés deux ou trois siècles après leur mort. Mais là, les circonstances étaient particulières, parce que justement, elle est morte en plein moment du grand schisme, donc il y avait deux papautés rivales, et c'était pas le moment, il y avait d'autres choses, d'autres priorités que dans l'Église que de canoniser des saints. Et jusqu'en 1415, donc rien ne s'est passé, sauf que les dominicains, Raymond de Capou et les dominicains, un autre de ses biographes, Thomas Caffarini, ont eu la prudence de faire une enquête locale. C'était pas un procès de canonisation, c'était une enquête organisée à Venise, qui était justement un des bastions de la réforme dominicaine. Ils enregistrent pendant plusieurs années des témoignages de gens qu'il avait connus, parce qu'ils se sont dit, si on laisse passer trop d'années, après, il n'y aura plus personne qui l'aura connu, qui pourra témoigner. Donc, très opportunément, entre 1411 et 1416, ils enregistrent des témoignages, surtout de dominicains, mais pas exclusivement, qui avaient connu personnellement Catherine. Alors ça fait une grosse masse de documents, qui ensuite ont été réutilisés lorsque les choses se sont calmées dans l'Église. Et puis, en 1458, arrive un pape siennois, Pie II, Piccolomini, qui est une famille avec laquelle Catherine avait été liée. Alors ce pape prend l'affaire en main et fait canoniser, enfin canonise lui-même Catherine en 1461. Mais on n'a pas refait justement un procès de canonisation, on a utilisé celui qui avait été, enfin, cette enquête qui avait été faite à Venise au début du 15e. On a simplement rajouté une collection de miracles, parce que pour être canonisé, il faut aussi avoir fait des miracles. Et donc, voilà, c'est comme ça que... Donc, c'est pas le fait qu'il y a eu 80 ans de décalage ne signifie pas qu'elle était mal vue ou suspecte, mais simplement, les circonstances dans l'Église ont été tellement agitées dans ces moments-là qu'il y a eu d'ailleurs très peu de saints canonisés à cette époque.
Alors pour clore le portrait, les saints ont nécessairement une postérité. aujourd'hui... dans la société, dans le monde savant, aussi celui des historiens, qu'est-ce qui explique, vous parlez d'un regain d'intérêt pour Catherine de Sienne. Commençons par le monde savant, celui des médiévistes. Vous parlez d'un mouvement d'intérêt nouveau pour Catherine de Sienne et quelques autres figures de mystique d'ailleurs.
Depuis une quarantaine d'années, on s'intéresse beaucoup plus au rôle des femmes. Alors c'est lié probablement au mouvement féministe, mais il y a une historiographie des femmes qui s'est développée autour de Georges Duby. Puis c'est pas seulement un phénomène français, ça a été même d'abord un phénomène américain dans les années 70. Les women's studies ont commencé à se développer aux États-Unis, puis c'est venu en Europe. Et là, on s'est aperçu que Catherine de Sienne était vraiment une personnalité majeure de ce point de vue-là, de cette perspective-là, même ceux qui ne s'intéressaient pas tellement à son message religieux sont intéressés à elle en tant que femme aspirant à jouer un rôle dans la société et le jouant à certains égards, effectivement. Et ce qui les a beaucoup intéressés, l'historien et historien de la littérature, c'est que c'est la première femme qui a écrit... elle a dicté, mais là aussi on sait qu'elle savait écrire... Elle a dicté ses lettres. Nous avons conservé d'elle 385 lettres, donc c'est pas rien.
Il y a un beau matériau.
Voilà. Et en langue vulgaire, c'est-à-dire en toscan. On ne parle pas encore d'italien à l'époque, parce qu'il y avait toutes sortes de langues, de dialectes. Mais enfin, c'est très proche de l'italien actuel. Donc, alors que jusque-là, la lettre était considérée comme un genre un peu culturel, assez niveau élevé. Et on écrivait en latin, mais si on ne savait pas latin, on n'écrivait pas. Ouais. Donc les femmes, ne sachant pas le latin, dans l'église, et puis ni dans la société, sauf quelques princesses, elles s'est permis d'écrire à tout le monde, au pape, non pas en latin, mais en langue vulgaire. Alors du point de vue culturel, c'est très important, parce que justement à partir d'elles et après elles, les femmes vont commencer à écrire. Et écrire elles-mêmes, non pas par l'intermédiaire d'un confesseur ou d'un ami clerc qui ne prenait des notes puis qui ensuite rédigeait. On peut toujours dire, mais est-ce qu'il a pas rédigé, mis des idées à lui en les attribuant aux femmes au nom desquelles il parlait. Donc elle écrit ou dicte directement son message. Et alors elle avait une petite chancellerie, entre guillemets, autour d'elle, justement, de gens qui étaient... de sa familia, qui était fascinée par elle. En particulier, il y avait deux notaires dont le travail consistait à recopier les lettres de Catherine et à les envoyer non seulement à leur destinataire, mais aussi à les diffuser sous forme de collection. Et ça a eu un grand succès, ça a beaucoup circulé en Europe au XVe siècle. Voilà. Donc c'est de ce point de vue-là, il y a eu tout un renouvellement de l'intérêt pour Catherine en tant que femme, et femme écrivante, non pas, parce qu'on distingue, enfin c'est du mauvais français, mais on distingue les mystiques écrites et les mystiques écrivantes. Les mystiques écrites, c'est celles dont nous connaissons les œuvres à travers des hommes qui les ont écrites.
En latin. Dont on a parlé.
Voilà. Mmh. Alors, il est probable qu'ils ont reproduit pour l'essentiel ce que leur avait dit leur dirigé, mais on n'en est jamais sûr. Tandis que quand la mystique écrit elle-même, il y a difficile de mettre en doute son témoignage. Voilà. Donc, à ce point de vue-là, elle marque un tournant. On n'est quand même pas très loin. Vous savez, la Renaissance en Italie, ça commence vers 1420. Donc, elle meurt en 1380. On est déjà dans ce mouvement qui marquera une certaine émancipation culturelle, au moins des femmes. D'ailleurs, au XVe siècle, on aura beaucoup de femmes de moniales, franciscaines ou dominicaines, qui vont écrire. Donc elle ouvre une voie. Oui, elle ouvre une voie et ça, les études récents, depuis une cinquantaine d'années, l'ont bien mis en évidence. Et puis d'autre part, elle a quand même cette, ce qu'on en parlait à l'instant, cette liberté de parole avec les institutions, non seulement de parole, mais du comportement, qui la rend évidemment assez fascinante, puisque peu de femmes avant elle avaient osé dire leur vérité, et quitte au risque de déplaire aux autorités, aussi bien civiles d'ailleurs que religieuses, puisqu'elle s'adresse à des rois, à des reines, et elle les rappelle à leur devoir, ou à ce qu'elle considérait en tout cas comme leur devoir.
Oui, mais c'est-à-dire que je vais faire un anachronisme extraordinaire, mais elle annonce presque la figure de ce qu'on appellera l'intellectuel engagé.
Oui, oui, d'un certain point de vue. Déjà, elle annonce Jeanne d'Arc, ça n'a rien à voir, bien entendu, puisque Jeanne d'Arc, c'est le contexte français, rural, enfin, donc c'est tout à fait autre chose. Mais ce fait d'aller délivrer un message à un pouvoir en disant « je suis envoyé par Dieu pour te dire que », c'est exactement la démarche de Jeanne d'Arc, quoi. Et on peut même pousser le parallélisme plus loin, parce que quand Jeanne d'Arc arrive à Poitiers, avant de la recevoir, le roi l'a fait examiner par des théologiens, savoir si c'est pas une folle ou une sorcière, voilà, exactement ce qu'on a fait pour Catherine. Donc il y a une valorisation de la parole féminine à la fin du Moyen-Âge qui est assez remarquable, alors que le Moyen-Âge dans son ensemble est plutôt misogyne et très méfiant vis-à-vis des femmes, surtout les clercs. Mais là, les femmes, grâce à toute une série de fortes personnalités, comme Brigitte de Suède juste avant, Catherine de Sienne et puis bien d'autres, vont entrouvrir la brèche. Et ça ne va pas durer éternellement, d'ailleurs. On les ramènera ensuite, à partir du début du XVIe siècle, l'Église commence à en avoir assez, toutes ces voyantes, toutes ces mystiques qui prétendent délivrer des messages ou des avertissements de la part de Dieu, et il va y avoir une réaction assez brutale. Il y a un concile qui n'est pas très connu, parce qu'il s'est tenu juste avant la réforme protestante, concile de Latran V, en 1509 ou 10, qui interdit... Enfin, qui dit qu'il faut se méfier de toutes ces révélations privées qui n'ont aucune autorité, qui sont souvent simplement des critiques de l'Église. Voilà, donc... mais il y a eu, fin 14e, début 15e, un siècle des femmes, on peut le dire, marqué par une certaine ouverture et émancipation de la femme, de certaines femmes, dans certains domaines.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte d'attrait un petit peu paradoxal de nos sociétés pour ces manifestations un petit peu débridées de spiritualité ? Dans les librairies, on a pu, au cours des, je sais pas, des 10 dernières années, voir se multiplier des écrits consacrés à la spiritualité rhénane. Il y a eu la figure d'Hildegard von Bingen, qui a même donné lieu à des disques, il me semble, où on mettait en musique ses laudes, ou je ne sais pas comment il faut appeler ses textes, ses prières. Un regain d'intérêt pour les béguines. Comment expliquer que dans une société quand même largement sécularisée comme la nôtre, y ait cet attrait? Enfin, peut-être que la réponse est dans la question.
Non, mais vous avez raison, il y a un mouvement de redécouverte du rôle des femmes dans l'Église et dans la société depuis une cinquantaine d'années maintenant, qui se traduit par des publications...
Oui, mais pas seulement des femmes, des mystiques.
Et des mystiques en particulier, voilà. Pourquoi?
Parce que c'est ça qui peut sembler contradictoire.
Globalement parlant, il y a une certaine méfiance chez beaucoup de gens, y compris même chez les chrétiens, vis-à-vis des institutions ecclésiastiques, et que s'intéresser aux mystiques, enfin, ça permet, ou du moins pense-t-on, de trouver une parole libre, qui n'est pas une parole passée par le canal ou la moulinette de l'institution, parce que ces femmes s'expriment de façon très... Elles peuvent être très respectueuses à l'institution, mais elles peuvent aussi lui dire ses cas de vérité quand elle en a besoin. Donc,
oui, elles ont un accès direct à Dieu.
Je crois que ce qu'on cherche, ce que un certain nombre de nos contemporains cherchent dans cette littérature, c'est une parole libre et qui ne soit pas une parole de l'institution, dont on soupçonne toujours l'institution de biaiser ou de, ou de, d'atténuer la radicalité du message, elles ne se gênent pas, elles y vont très fort, non pas pour casser la baraque, parler familièrement, mais parce que il y a ce modèle qui est, dans le christianisme, faut quand même pas oublier que même si à certaines époques on le trouve pas, mais où il disparaît, on a cette figure quand même du prophétisme biblique qui permet, lorsque la messagère ou le messager est authentique, qui lui permet de délivrer des messages de la part de Dieu. Et ça, c'est quand même une dimension très intéressante, parce que ce prophétisme, aujourd'hui, on le voit renaître sous d'autres formes, et pas forcément une forme religieuse, mais bon, pensez à un personnage comme Mère Teresa, par exemple, il y en a d'autres, hein, même en dehors du christianisme, hommes ou femmes, qui sont des témoins de l'absolu. Alors parfois ils sont insupportables. À un moment, je fais une longue comparaison entre Catherine de Sienne et Simone Veil. Simone Veil, la philosophe morte en 1943, c'est exactement le même type de femme, une femme qui a un radicalisme absolu, qui est une critique absolument virulente des institutions, quelles qu'elles soient, universitaires, églises. Hein,
c'est une forme d'anorexie.
Et qui meurt aussi en 1943, plus ou moins, enfin plutôt volontairement, parce que la France libre refusait de la parachuter en France, où elle voulait aller rejoindre la résistance, et pour protester contre cette décision qu'elle trouve choquante, et elle se laisse mourir. Catherine de Sienne s'est laissée mourir parce que le pape refusait de réformer l'Église, et donc elles sont tout à fait en parallèle. Alors, ce sont des formes absolues, on peut les trouver ridicules, mais on peut aussi les trouver admirables, voilà, au choix.
Ou déroutantes, ou... On oscille sans cesse, en fait, au fil de la lecture, entre la fascination, un peu d'effroi.
Voilà, elles font un peu peur.
Et un peu d'admiration.
Ce que je dis au début, c'est pas un personnage immédiatement sympathique. J'ai écrit une biographie de François d'Assise. François d'Assise, on ne peut que l'aimer. C'est pas évident pour Catherine de Sienne, qui justement est très cassante,
très autoritaire,
tranchante, et qui est tellement sûre d'elle que parfois, elle fait un peu peur. Voilà.
André Vaucher, merci beaucoup. J'invite nos auditeurs qui souhaiteraient poursuivre cette découverte de la personnalité, donc à la fois attachante, effrayante et fascinante, de Catherine de Sienne, et aussi cette époque fascinante quand même qu'est le monde médiéval, à la fois si lointain, si proche, où on retrouve tout à la fois des choses toujours présentes aujourd'hui, des débats encore très vifs, mais abordés ce sont tellement différents que c'est enrichissant. Donc je les invite à acquérir votre ouvrage Catherine de Sienne, vie et passion, par André Vaucher, aux éditions du Cerf, et qui est doté d'une très belle couverture. Vous avez dit que Catherine de Sienne était très belle, en tout cas telle qu'elle est représentée sous la couverture par Vecchietta au 15e siècle. Et bien de fait elle est très très belle. Merci beaucoup André Vaucher, et merci à nos auditeurs de leur fidélité. Thank you.